Donc, lisons ensemble dans Éphésiens chapitre 6 ce matin. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 14. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On a vu la semaine dernière, en réponse à la question des disciples, qui donc peut être sauvé? Le Seigneur avait souligné l'importance d'entrer dans son royaume en mettant sa foi en lui seul, en mettant notre foi en Jésus, avec tout ce que mettre sa foi en Jésus comporte. Ce n'est pas juste croire que Jésus existait, mais croire qu'il est mort pour nous, croire que donc il est ressuscité et nous offre la vie nouvelle, croire qu'il est notre justice et la garantie de notre salut éternel, croire que donc ce qui nous enseigne pour la vie est sérieux et donc est sa volonté. Et que si on met notre foi en Jésus, donc, on est sauvé et on peut entrer en relation avec Dieu, qui est le but pour lequel Dieu nous a créés. On avait vu également il y a quelque temps l'importance, si nous voulons maintenir cette relation avec Dieu, d'être rempli du Saint-Esprit. On avait vu dans le verset 10 de ce passage qu'avant de parler des autres éléments, des autres aspects du combat spirituel que nous devons mener en tant que chrétiens, l'apôtre Paul commence par dire « Fortifiez-vous dans le Seigneur. » Qu'avant d'utiliser les armes qu'il nous donne, avant de mettre des choses en pratique qu'il nous enseigne, le but principal, c'est d'être centré sur lui, rempli de sa présence, nous fortifiant dans le Seigneur lui-même. Et justement, l'acte de prendre la Sainte Cène, comme nous venons de faire, nous rappelle cette réalité et l'importance de cela, puisque régulièrement, on est appelé à se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous, se rappeler que nous sommes dépendants de lui, que notre vie vient de lui, de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection, que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes capables même de maintenir cette relation, mais que nous avons besoin d'être ancrés en lui et de vivre en lui. Et puis donc, il y a quelques semaines, on a lu ensemble ce passage en voyant donc que l'apôtre Paul et à travers lui le Saint-Esprit nous montre que si nous avons mis notre foi en Jésus, si nous sommes entrés dans son royaume, si nous sommes devenus enfants de Dieu, même si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous trouvons en situation de guerre à différents niveaux, dans différents domaines de notre vie, à cause de ce que l'apôtre Paul va décrire dans Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14, où il dit « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » En fait, l'apôtre Paul nous dit donc que Dieu est intervenu dans notre vie pour nous ôter de ce monde de ténèbres, de nous ôter du pouvoir du prince de ce monde de ténèbres, qui forcément donc réagit un petit peu comme le pharaon lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte et ont été libérés lors de l'Exode. Lui aussi s'est dit, mais je ne veux pas perdre ce qui était sous mon autorité, sous mon pouvoir. Je ne veux pas que Dieu délivre ces personnes de la puissance des ténèbres. Je ne veux pas qu'ils soient transportés dans le royaume de son fils, d'autant plus que lui, son objectif final, c'est de veiller à ce que ce fils bien-aimé et le père ne soient pas honorés, ne soient pas glorifiés, mais que ce soit lui qui prenne leur place et donc qu'il voudrait avoir le plus grand royaume à la place de ce royaume du fils bien-aimé. Et donc du coup, il fait la guerre contre ceux que Dieu délivre, contre ceux qui deviennent citoyens du royaume de Dieu, et nous, nous nous trouvons donc dans cette situation de guerre. Mais on a vu ce jour-là que la bonne nouvelle que Paul nous déclare dans ce passage, c'est que même si nous nous trouvons dans cette situation de guerre à cause de la rébellion de l'ennemi qui voudrait nuire au royaume du Fils bien-aimé, ben la bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà pourvu et fourni tout ce qui est nécessaire pour nous de mener à bien ce combat. On n'est pas là tout seul à se débrouiller, à dépendre de nous-mêmes. Nous trouvons la force qu'il faut dans la personne du Seigneur, mais en plus, il nous a préparé toute l'armure nécessaire pour être dans cette guerre sans crainte et d'en sortir victorieusement. Mais ce qui est important, c'est de noter dans ce passage qu'à deux reprises, l'apôtre Paul souligne le fait que pour mener ce combat, donc pour être victorieux dans cette vie où nous nous trouvons, ayant été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé, nous avons besoin de toutes les armes de Dieu. Toutes les armes. Verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. On ne peut pas se satisfaire simplement avec un élément de ce que Dieu a pourvu, en disant « Ah ben oui, ça m'intéresse. Bon, le reste, je laisse aux autres. Mais moi, je voudrais bien cette partie-là. » Paul nous dit, et donc le Saint-Esprit nous dit, « Nous avons besoin de toutes les armes que Dieu a préparées. » Ce n'est pas que la vérité m'intéresse. Mais bon, toi, tu as besoin... où tu es intéressé par la justice, toi tu vas vouloir la foi. Nous avons besoin de tout. Une armée, pour être victorieuse, ne peut pas simplement partager quelques éléments de matériel entre ses soldats. En disant, bon écoute, toi tu vas porter un casque, toi tu vas avoir un fusil, toi tu vas avoir un gilet pare-balles. Si une armée veut être victorieuse, chaque soldat a besoin de l'équipement total, de tout ce qui est nécessaire pour mener ce combat. Nous, en tant que chrétiens, c'est pareil. On doit rechercher et utiliser tout ce que Dieu a mis à notre disposition. C'est comme pour le fruit de l'esprit, ou pour les dons de l'esprit, ou pour d'autres aspects de la vie chrétienne. On n'est pas censé jeter « Ah ben, il y a tel domaine qui m'intéresse, le reste, ben, je laisse aux autres. » L'objectif, c'est de s'équiper et de se servir de tout ce que Dieu a fourni pour nous. Et donc, il nous demande de fonder notre vie sur toute sa parole. En Matthieu 7, verset 24, Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je suppose que ce matin, nous voulons tous ressembler à l'homme sage plutôt qu'à l'homme stupide qui, lui, a bâti sa maison sur le sable. Jésus dit, lui, il ressemble à quelqu'un qui entend mes paroles, mais ne les met pas en pratique. Alors que l'homme sage, c'est celui qui entend ma parole et qui la met en pratique. Donc, lorsque le Seigneur nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, nous devons être comme l'homme sage, fonder notre vie sur ce que Dieu nous dit et se dire, ben, si Dieu me dit que j'ai besoin de prendre toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans de mauvais jours et tenir ferme, alors je vais l'écouter, je vais mettre en pratique ce qu'il me dit, je vais chercher tout cet équipement que Dieu m'a donné. Mais donc le premier élément de cet équipement dont parle l'apôtre Paul dans ce passage, c'est la ceinture de la vérité. C'est un drôle de choix, n'est-ce pas? Si justement la police faisait un appel à témoins et vous aviez vu un crime et le policier vous demande de décrire la personne, est-ce que vraiment vous allez commencer par une description de sa ceinture? Souvent, on va commencer par autre chose et la ceinture, bon, c'est juste un petit détail qui va venir à la fin si on ne l'a pas oublié. Alors, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul parlerait en premier de la ceinture? Je lisais il y a quelque temps un livre au sujet de l'armure de Dieu et l'auteur disait, il faut se rappeler que l'apôtre Paul, sans doute, s'inspirait des gardes romains qu'il avait autour de lui lorsqu'il était sous arrestation. Et donc, les points qui sortaient étaient le reflet de ce qu'il voyait devant lui. Alors, à regarder, on dirait peut-être pas que la ceinture soit l'élément le plus important de l'équipement d'un soldat par rapport à sa cuirasse, par rapport à son épée ou son bouclier, on dit, la ceinture, c'est bien secondaire. Si vous portez un pantalon, vous savez que parfois, la ceinture est tout sauf inutile. Pour le soldat romain, l'avantage de cette ceinture, ça avait un rôle important, même si cela ne se voit pas, ça tenait tout le reste en place. Ça permettait à ce qu'il puisse courir sans être gêné. Ça permettait que son bouclier reste bien attaché en place. Ça permettait de ce qu'il puisse, en un coup de main, attraper son épée. Il semblerait peu intéressant, mais la ceinture est très utile. Cela illustre bien le rôle fondamental de la vérité dans notre vie. Finalement, le rôle fondamental de la parole de Dieu. Parce qu'en Jean 17, verset 17, Jésus dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Donc finalement, cette ceinture de la vérité qui tient tout le reste en place, c'est la parole de Dieu. Sans c'est le fondement de cette vérité, on pourrait croire à n'importe quoi, tout ce qu'on nous raconte. D'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsqu'il parle des ministères donnés à l'Église, il dit leur rôle, c'est de nous équiper pour que nous devenions des adultes dans la foi qui ne vont pas être ballottés à droite et à gauche par tout vent de doctrine qui arrive par tous les dernières modes, tout ce qui peut être circulé sur Internet, dans les églises, et qui pourrait nous éloigner de la vérité de la parole de Dieu. Notre rôle, c'est d'être fondé solidement dans cette parole qui est la vérité. Donc, ce n'est pas simplement une question de débat théologique, théorique concernant quelques doctrines. C'est une question de la vérité qui nous permet d'avoir un fondement solide dans notre vie pour que tout tienne en place, pour que lorsque viennent ces moments de combat, nous sommes capables de tenir ferme et de résister et donc d'être victorieux. Cette conviction donc que la Bible représente la parole de Dieu et qu'en tant que parole de Dieu, elle nous dit la vérité. On voit ce rôle important de la vérité et de la parole de Dieu. D'ailleurs, dans les attaques, des exemples d'attaques de l'ennemi et de combats, soit gagnés, soit perdus face à l'ennemi, lors des tentations d'Adam et Ève et de Jésus. En Genèse chapitre 3, versets 1 à 5, il est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Notez son point d'attaque. « Dieu a-t-il réellement dit ça ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Autrement dit, soit Dieu s'est trompé, soit Dieu vous a menti, mais ce n'est pas comme Dieu l'a dit. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? Il commence par semer le doute quant à ce que Dieu a réellement dit. Quand elle répète ce que Dieu a réellement dit, lui, il dit, mais non, ce n'est pas la vérité. En Matthieu chapitre 4, verset 3 également, lorsque le diable tente Jésus, il est dit que le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Tu crois que Dieu a dit que tu es le Fils de Dieu, mais en es-tu sûr? Est-ce que tu es sûr que tu ne t'es pas trompé ou que Dieu ne s'est pas trompé, que ce qu'il a dit n'est pas vrai? Bon, si vraiment tu veux être sûr, bah fais un petit miracle pour le prouver. Ça montrera si c'est vrai ou pas. L'ennemi prend toujours comme point d'entrée, comme point d'attaque, cette question de doute quant à la vérité. Parce que si la vérité n'est plus là, le reste peut facilement tomber. Lorsqu'on a vu Bruno en train de monter tous les éléments sur scène pour la présentation de Noël, bah, jusqu'à ce que tous les vis soient bien en place, bah, ça vacillait un petit peu. Il ne fallait pas claquer la porte, sinon ce ne serait pas seulement Bruno qui tombait, mais tout qui tombait. Si on n'a pas cette assurance que la parole de Dieu est la vérité, il n'y aura plus rien de stable dans notre foi, dans notre vie chrétienne. Puisque tout d'un coup, tout devient relatif. Tout est possible. Alors que Jésus a dit, ta parole est la vérité. Et c'est cette vérité sur laquelle nous bâtissons notre vie en la mettant en pratique. C'est encore plus important peut-être d'y croire actuellement dans une société où la vérité n'est plus une absolue. Où il est question, est-ce que la vérité existe réellement? Selon la Bible, selon Dieu, donc, la vérité n'est pas le fruit de mes désirs. Ce n'est pas parce que moi j'aimerais que telle chose soit vraie que telle chose est vraie. Ce n'est pas non plus le résultat et le reflet de l'opinion publique. Peut-être 99% de nos concitoyens vont croire telle ou telle chose comme vraie. Si Dieu dit le contraire, ce n'est pas là la vérité. Ta parole est la vérité. La vérité ne change pas avec les déclarations des hommes politiques, ni d'ici, ni d'ailleurs, ni des déclarations des scientifiques, ni des déclarations des vedettes de cinéma ou autres, ni des influenceurs d'Internet. Et la vérité n'est pas non plus simplement le reflet de la dernière invention de l'intelligence artificielle. La vérité est un absolu. Même si effectivement peu de gens y croient aujourd'hui, Dieu nous dit que la vérité est un absolu car la vérité est le reflet d'une personne. En Jean 14, verset 6, Jésus dit « Je suis la vérité ». La vérité est donc le reflet de Jésus-Christ, et donc un absolu qui ne changera jamais car le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc si lui, il est la vérité est la même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est cette vérité qui est censée être le roc sur lequel nous bâtissons notre vie en mettant cette vérité en pratique. Car donc ce que cette vérité nous révèle sur la nature de Dieu reste toujours vrai. Sur le plan du salut reste toujours vrai. Mais aussi ce que cette parole nous dit concernant le comportement que Dieu exige de nous reste toujours vrai, quels que soient les modes de la société. Sa parole est la vérité. C'est pourquoi l'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc ressemble à quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. Ma chair ne va pas toujours être content ni d'accord, mais ça ne change pas cette vérité. Et l'appel de Dieu, si je suis citoyen de son royaume, c'est de vivre dans cette vérité, de mettre cette vérité en pratique. Je ne peux pas simplement prendre les quelques éléments qui m'arrangent et dire, bon, pour les autres, j'ai d'autres vérités que je préfère appliquer dans ma vie. L'aspect fondamental de notre combat spirituel, c'est de rétablir la vérité de la parole de Dieu dans notre vie. De remplacer les mensonges dans lesquels nous pouvons parfois croire, les mensonges dans lesquels parfois notre chair aimerait bien croire. Nous devons les rétablir par la vérité et reconnaître humblement ta parole et la vérité. Sans cela, le reste n'a aucune utilité. Les autres armes ne nous serviront pas jusqu'au bout. Parce que c'est cette ceinture de la vérité qui tient tout le reste en place et qui donne justement le fondement nécessaire pour pouvoir tenir ferme et employer les autres armes que Dieu a préparées pour nous. Si nous voulons honorer Dieu, si nous voulons tenir ferme, résister dans le mauvais jour, nous devons être des gens de la vérité. Que nous puissions donc mettre la vérité de la parole de Dieu en pratique tous les jours de notre vie. et permettre à cette vérité de remplacer tout mensonge dans lequel nous pourrions croire.